7h, Gravel dans le retour qui se poursuit. Je m'appelle Audrey Véro qui est toujours autour de la table. Antonine Yacarini également. On va faire les nouvelles dans les prochaines minutes. Peut-être juste faire un petit saut dans la circulation en ce moment qui s'intensifie dans quelques secteurs. Là. Ralentissement assez inhabituel sur Henri IV Nord, je vous dirais, entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle. On nous avait averti, là, il y a un accident, les lumières qui ne fonctionnent pas, les pompiers et les policiers qui sont sur place aussi, selon certains textos, ce qui fait que ça crée ce ralentissement-là si vous êtes dans le coin. Capitale, direction est, ça se passe toujours à la hauteur de Robert Bourassa. C'est dégagé direction ouest. Le reste du trafic est vraiment concentré à l'entrée des ponts. Direction sud, si vous êtes sur Henri IV à partir de Versant Nord, ça ralentit. Duplessis à partir de Chemin Sainte-Foy. Il y a de la nouvelle. On va faire un tour d'actualité dans les prochaines minutes avec Véro.
Oui, puis on attendait après cette réaction-là, alors que le premier ministre Mark Carney est du côté de l'Australie, il tenait un point de presse. En gros, ce qu'il a mentionné là-dedans, c'est qu'il a imploré tous les partis, y compris les États-Unis et Israël, de respecter les règles d'engagement international. Il a confirmé du même coup que ni les États-Unis ni Israël n'avaient informé le Canada avant de frapper l'Iran. Il a indiqué que le conflit était un autre exemple de l'échec de l'ordre international en dépit de résolutions du Conseil de sécurité pendant des décennies. En gros, ce qu'il dit, c'est que notre manière de faire les choses, ça n'aura jamais fait que l'Iran a cessé de faire des menaces nucléaires. Il a souligné le fait qu'il voulait qu'on ait une cessation rapide des hostilités, que le Canada était prêt à contribuer à la réalisation de cet objectif-là. Il déplorait la situation pour ce qui est des civils iraniens qui vivaient quand même dans un drôle de contexte, qui, là, en plus de ça, doivent supporter cette situation-là, qu'on travaille actuellement avec les gouvernements étrangers pour tenter de faire un rapatriement, mais que la situation est trop dangereuse pour un rapatriement à grande échelle. Le chiffre qui a été mentionné pour ce qui est de toute la région du Golfe qui actuellement est à risque, c'est plus de 90 000 Canadiens qui se retrouvent dans ces secteurs-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde va vouloir être rapatrié nécessairement, mais ça aurait été la sortie de Mark Carney qui était quand même assez attendue. Je vous rappelle qu'un peu plus tôt aujourd'hui, Ottawa qui a demandé à ce que l'accès à l'espace aérien demain soit rouvert pour qu'on soit capable d'avoir certains vols. L'autre histoire qui fait jaser, c'est un autre sondage du côté de Léger, le journal TVA, qui a été mené très récemment, du 27 février au 2 mars. Oui, on a eu bien des sondages sur la course à la chefferie de la CAQ, mais je pense que ça ne fait pas vibrer l'épiderme de personne. Par contre, quand on sort des chiffres d'appui à la souveraineté, ça fait toujours, toujours réagir de part et d'autre. Donc, le titre est vraiment ravageur. L'appui à la souveraineté est au plus bas depuis 1995, c'est pas mal les années où on avait eu des belles pancartes puis tout. J'ai une souverainiste en studio.
Mais c'est ça, comment tu te sens, Daniel?
J'attends de voir sa réaction. Selon les chiffres qui se retrouvent dans ce sondage-là, seulement 29 % des Québécois voteraient en faveur de l'indépendance du Québec si on faisait une consultation à ce moment-ci. Fait que vraiment une photo entre le 27 février et le 2 mars. À 32 % en janvier, on se doutait là, qu'il n'y aurait pas une remontée dans le sondage suivant. Fait qu'il n'y a pas tant de surprise de ce côté-là. Puis quand on fait la répartition des indécis, c'est 71 % des répondants qui voteraient contre la séparation du Québec, donc qui voteraient non sur le bulletin de vote. Dans les explications qu'on nous sort, c'est l'instabilité géopolitique qui en rajoute une couche. Donc, ce qui est en train de se passer du côté de l'Iran qui fait qu'encore une fois, la position du Québec à travers tout ça, on semble se sentir plus sécure à l'intérieur du Canada. Puis, on a vu aussi dans les derniers temps que Paul Saint-Pierre Plamondon répète qu'il veut faire un référendum dans un premier mandat si parfois il était élu à la tête de la province. Mais il parle beaucoup plus de mettre en place un vrai gouvernement de remplacement à celui de la CAQ. Je serais curieuse de t'entendre par rapport à ces chiffres-là qui viennent de sortir. Je sais qu'il n'y a pas de surprise là-dedans. Là.
Bien, c'est un peu ça. C'est qu'il y a eu un palace la semaine passée qui n'était pas extraordinaire non plus. Non. En fait, ça mettait la souveraineté à 26 % du côté du oui, mais là, ce qui est un peu différent, c'est que le non est plus fort. Il n'y a pas beaucoup d'indécis, donc on est à 70 % pour le...
Bon, on avait fait la répartition des indécis, par contre. Là.
Avec la répartition des indécis, mais c'est plus fort qu'avec la répartition des indécis du côté du Palace. On peut donner un petit peu plus de crédibilité, puis je ne dis pas que Palace, c'est une mauvaise maison
l'échantillonnage.
De sondage. Mais c'est sûr qu'on attendait de voir le prochain Léger pour voir si cette baisse-là, depuis les dernières semaines, allait se répercuter. Puis ça démontre tout le défi du Parti québécois. Là.
Parce que là, à ce moment-ci, là, je comprends, on est en relâche cette semaine, on parle très peu de politique, on parle encore un peu de la course à la chefferie parce que, bon, en fin de semaine, il y avait cet échange devant la commission. Bien, en fait, c'est comment on appelle ça du côté de la CAQ, les jeunes?
C'est la commission relève.
Commission relève, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même au beau fixe quand on va recommencer les travaux. Là, tu sais, on sait déjà que Charles Milliard va se présenter dans une circonscription lors de la prochaine élection générale. Lentement, mais sûrement, il va tenter de prendre de la place, d'essayer d'avoir l'espèce de vent de renouveau de son côté à lui. On voit que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le référendum, puis l'espèce de nouveau narratif de dire « on risque de s'en aller vers une élection » où la question de l'urne sera le référendum, il va falloir qu'ils se défendent de ça énormément parce que la population n'est pas intéressée.
Il a déjà commencé aussi à se donner certaines portes de sortie.
Une latitude, oui.
Une latitude. Il le faisait déjà, mais là, c'est comme si c'était devenu vraiment plus clair qu'avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, ils ne sont pas fous. Ils ne feront pas un référendum l'automne prochain dans les 100 premiers jours. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre de tout ça. Puis avec des chiffres comme on voit dans ce sondage-là, c'est l'évidence. Par contre, je mets un petit bémol. Avant le référendum de 1995, si on regardait un an avant, les sondages pour la souveraineté n'étaient pas extraordinaires. Il y avait eu un premier référendum sur la souveraineté en 1980. Il y a eu un passage à vide très, très fort. Et c'est vraiment... En fait, le Parti québécois avait été vraiment actif à animer cette ferveur souverainiste. Puis ça, c'est beaucoup resté chez les péquistes, cette idée que même si les gens n'en veulent pas, si vraiment on en parle beaucoup puis qu'on repart un cycle, les gens
ça
vont embarquer, ça va monter.
Mmh. Mais... Je me suis déjà fait répondre par un souverainiste convaincu. « Ouais, mais c'est parce que vous comprenez pas. »
Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est gagnant. Ça te donne le goût.
T'es ouvert d'esprit tout d'un coup, hein?
Ça te tente de l'écouter après ça. Mais les péquistes, honnêtement, et je peux plaider coupable, j'ai travaillé au Parti québécois pendant des années, l'approche n'est pas toujours attrayante. Donc, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, vous connaissez cette expression. Et si vous passez un petit peu de temps sur les plateformes de réseaux sociaux style X, qui est la plateforme la plus politique, les militants péquistes sont réputés pour être vraiment agressifs, puis d'être, ça donne pas toujours le goût si t'es un indécis. J'ai envie de dire ça comme ça. Il y a vraiment un problème d'approche.
Ouais.
Donc, tu sais, de dire, ben, si t'es pas souverainiste, c'est parce que tu comprends pas.
C'est sûr que ça convaincra personne.
Ou de traiter les gens de colonisés. Là. Tu sais, ça, on voit beaucoup ça.
Ah, ouais.
Très peu gagnant également. Fait que le PQ a vraiment un travail à faire. Mais tu sais, je pense que le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon de dire, écoutez, si on est élu l'automne prochain, on va être là pendant 4 ans. Évidemment qu'on va monitorer la situation. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on va attendre les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Par contre...
Peut-être la fin du mandat de Trump.
Ça, il n'a pas voulu le confirmer, même si c'est arrivé beaucoup dans l'actualité. Mais tu auras toujours les purs et durs. Puis c'est arrivé auparavant avec d'autres chefs que, hey, si c'est pas un référendum, ta priorité, on va te poignarder. Tu vas te tasser. Tu ne t'offreras pas plus qu'un mandat en tant que premier ministre du Québec. Puis ça a été le pain puis le beurre du PQ pendant combien d'années de justement prioriser, gérer une province avant de devenir un pays. Fait que ça va être
les militants
purs
et durs n'ont pas envie d'avoir la gouvernance souverainiste. Quand vous entendez cette expression-là, la gouvernance souverainiste, c'est justement le bon gouvernement là, qui gère une province, mais qui n'essaie pas de faire un pays activement comme étant sa priorité absolue. Tu as tout à fait raison, ça le guette aussi. Je pense que les militants ont peut-être quand même un peu évolué depuis l'époque. Tu sais, le PQ se déchire moins qu'à une certaine époque
aussi.
Tout à
fait. Tout à fait, effectivement. T'sais, avant, on était capable de dire exactement quelle faction était à quel endroit. Tu le voyais, ben, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait plus de députés du PQ. C'était facile de faire des gangs. Là, c'est un peu plus difficile.
Là, c'est une gang.
Là, ils peuvent pas se permettre d'être deux, sinon ça serait vraiment difficile. Sinon, dans les autres nouvelles, c'est des chiffres qui sont sortis dans la presse. T'sais, on s'est tellement parlé beaucoup des médecins au courant des dernières années. Il y a eu les négociations. T'sais, oui, il y a l'entente avec la Fédération des médecins et praticiens du Québec qui a finalement été entérinée, mais on a vu ce qui s'est passé au mois de novembre, au mois de décembre, des médecins omnipraticiens, des médecins de famille qui se sont désengagés ou qui ont choisi d'aller ailleurs.
Oui, de s'en aller carrément.
Mine de rien, il y a des jeunes qui auraient dû entrer sur le marché du travail en médecine familiale qui ne l'ont qui ne l'ont pas fait. Selon les chiffres qui sont sortis de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, en 2025, 18 % des postes étaient demeurés non pourvus après le premier tour. Au deuxième tour, c'est 13 % qui étaient restés vacants. En gros, ce que ça veut dire, là, c'est qu'il y a 146 postes pas comblés en médecine familiale actuellement et qu'ailleurs au Canada, ce serait 105. Fait que le coût qu'on a donné à essayer de faire passer les médecins comme des enfants gâtés de notre société a probablement découragé de la relève à vouloir vraisemblablement travailler en médecine familiale. Fait que soit ils ont poursuivi leurs études, soit ils ont fait un tout autre choix. C'est des chiffres qui vont finir par nous rattraper alors qu'actuellement, on est en déficit de médecins de famille. Tu sais, levez la main si vous êtes capable d'en avoir un.
Là. C'est drôle, mon amoureux a essayé d'appeler à l'endroit où son médecin de famille, son bureau, il y a 3 semaines maintenant. Il a fait son appel, puis la secrétaire lui a dit « On va vous rappeler pour prendre un rendez-vous sous peu. » Ça fait déjà 3 semaines. Fait que là, il attend l'appel pour une prise de rendez-vous qui risque d'être probablement dans plusieurs mois, on s'entend. Fait que tu sais, quand tu penses au fait que c'est peut-être urgent, que peut-être tu as besoin de voir quelqu'un rapidement,
puis là, tout le monde qui peut aller au privé,
ben non, imagine!
On est dans un mouvement de vieillissement de la population, le fameux péril gris qu'on appelle. Oui. Là. Fait que des gens vulnérables, que ce soit pour des problèmes de santé, des problèmes cognitifs ou quoi que ce soit, on va les perdre, ces gens-là. Là.
On a vraiment l'impression de se diriger vers un mur avec notre système de santé. C'est décourageant. Puis tu sais, si on regarde l'autre côté de la médaille pour les médecins, Tu dis on est en déficit. Bon, tu sais, on sait qu'on a aussi un problème d'organisation des soins.
100 %,
là.
Ça, c'est certain. Là.
Mais là, je regarde ça, puis ce qui s'est passé cette année, puis avec le mélodrame que ça a créé, prochain gouvernement qui a le goût de commencer à jouer là-dedans, là, ça donne pas le goût. Là. Mm. Ils ont essayé, la CAQ s'y est prise de manière très maladroite.
En fait, ils n'ont pas donné d'outils, puis ils ont décidé de frapper exactement des médecins, plutôt que de dire « Hey, on va vous en demander plus, mais on va vous en donner beaucoup plus. On va s'arranger pour que vous fassiez moins de bureaucratie, on va s'arranger pour que vous ayez moins la tête à la gestion et plus à l'application. » Mais on n'a pas fait ça. On a choisi de faire ça en silo.
Le seul bon mouvement, c'est les IPS, là. C'est vraiment une bonne affaire que maintenant tu puisses voir une IPS en première ligne au lieu d'un médecin.
Il y a des bonnes choses qui se sont faites aussi.
Ça a donné un lousse, mettons.
Mais on a voulu faire des méchants dans une histoire. Puis ça a rebondi dans la face du gouvernement. Ça a écœuré des médecins qui auraient pu travailler ici.
Geneviève Biron, es-tu encore à la tête de Santé Québec?
Oui. Comment? Oui, elle est toujours là.
OK, elle existe toujours. Voyons. Ah ben oui, OK.
Oui, puis c'est sûr que c'est pas évident pour l'Agence Santé Québec de voir des résultats de cette réforme-là. Mais moi, je pense que cette confrontation-là, ben ils font plein de choses. Honnêtement, ils sont en train de réorganiser beaucoup, beaucoup de choses, puis c'est un travail qui est titanesque. Et le ministère de la Santé...
C'est une question sérieuse en passant, c'était même
pas
rempli d'ironie. C'était
pas ironique. Mais tu sais, je le sais que les gens sont cyniques par rapport à Santé Québec, puis je les comprends, puis de toute façon, on est tous un peu découragés.
Mais c'est parce qu'on nous avait tellement promis gros.
Bien, c'est ça l'affaire, c'est que M. Dubé, Christian Dubé, il a monté les attentes pour sa réforme, et après, il a monté les attentes pour les médecins. Puis la question de la confrontation directe avec les médecins, ça s'inscrit dans un moment où la CAQ essayait tellement de marquer des points politiques que c'est impossible de dissocier ça de la partisanerie puis des motivations politiques. Oui. Et j'ai l'impression que malheureusement, ça va laisser des traces pendant plusieurs années, puis que s'il y a un autre parti qui accède au pouvoir l'automne prochain, ils vont se dire « moi, je touche plus à ça », alors qu'il y aurait quand même des choses à faire pour mieux organiser les soins, et alors qu'il y a quand même certains reproches qui sont faits à notre système qui tourne tout autour du médecin, qui mériterait qu'on s'y attarde. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde va dire « moi, je touche pas à ça avec une perche de 10 pieds ».
Et pourtant, on dirait que c'est de ça qu'on veut entendre parler d'une certaine façon.
Bien, c'est ce qui touche le plus les gens. Tout le monde a de la misère à avoir des médecins.
Ça touche
tout le monde.
Exactement. En terminant, il y a eu une intervention du service de protection contre les incendies un peu plus tôt aujourd'hui dans le secteur de la Haute-Ville. Vers 15h20, on a été appelé dans un stationnement à étage situé sur la rue Saint-Joachim. Puis là, ça fait plusieurs incendies de véhicules qu'on a, et encore une fois, là, on a été chanceux, ils sont intervenus rapidement, il n'y a pas eu de propagation, personne n'a été blessé dans cet événement-là. Par contre, on a des raisons de croire que l'incendie serait de nature criminelle. Je trouve que dans les dernières semaines, il y en a eu énormément. Il y a eu des arrestations en lien avec certains, fait que c'est un dossier qui sera à suivre.
Hey, j'ai deux histoires de faits divers à vous raconter. deux affaires qui m'ont fait sourire, mettons, aujourd'hui, quand je les ai lues.
Oui, parce que c'est lourd. J'espère que ça va être le fun.
Bien, cocasse, okay. Du moins. Auriez-vous pensé un jour que la dysfonction érectile aurait été considérée comme lésion professionnelle?
Je comprends pas, vite de même.
Ça dépend dans quel contexte.
C'est un texte de l'amie Judith Demeul dans le soleil. J'aurais vraiment aimé ça qu'elle puisse nous le raconter. Elle n'était pas disponible cette semaine pour venir nous voir, mais je vais me faire la tâche de vous raconter l'histoire. Fait qu'elle parle d'un camionneur qui a été gravement blessé dans un accident à l'automne 2021. Il s'est fait frapper par un char, en fait, quand il est descendu de son camion. Le chauffeur fautif roulait à 70 km/h. Ça a vraiment fessé, OK? Il a subi des grosses blessures, des fractures, pneumothorax, traumatisme crânien. On va l'appeler Martin, là, pour les biens de l'histoire. Fait que, après les premiers diagnostics d'un médecin, Martin a produit sa réclamation à CNSST. Il a ses premières prestations qui rentrent, etc., etc. Puis l'affaire, c'est qu'il y a eu des complications avec le temps. Fait que dans le cadre du suivi médical, quelques mois plus tard, il y a des nouveaux diagnostics qui sont posés par un professionnel de la santé et on conclut qu'il y a une dysfonction érectile puis beaucoup de dernier discal qui sont un peu partout dans son dos puis des problèmes et compagnie. Fait que là, Martin, il remplit de nouveau des rapports à ses nécessités pour avoir des prestations. Tu comprends? Il ne peut pas travailler. Et cette fois-ci, la CNSST ne reconnaît pas le lien entre les diagnostics et l'accident.
Okay.
Ce qui fait en sorte que c'est refusé, il n'y a pas de nouvelles prestations. Fait que lui décide d'aller contester tout ça devant le tribunal administratif du travail. Et à l'audience, il a été capable de démontrer que la dysfonction érectile qui découlait directement de la médication qu'il avait pris pour soulager ses douleurs après l'impact de l'accident créait ces problèmes-là chez lui. Donc, plus capable de lever comme du monde, plus capable de jouer de la vie. C'est dit. Plus capable d'avoir de plaisir au quotidien. L'ironie là-dedans, c'est que la juge administrative n'a pas retenu les hernies puis les grandes douleurs au dos. Puis Dieu sait que ça fait mal en motadine. Là. Fait que pour ça, il n'a pas eu ses prestations.
Mais pour
ça
la dysfonction, il l'a eu.
Ça n'a pas été considéré.
Ben voyons donc.
Mais la dysfonction érectile est considérée comme lésion maintenant professionnelle. Fait que sachez-le, messieurs, si vous avez des problèmes érectiles suite à des accidents, ça peut peut-être être considéré. Vous êtes avertis. Autre histoire qui m'a fait sourire aujourd'hui, c'est un texte qui a attiré mon attention encore une fois dans le soleil. C'est celui sur la fille qui a menti pour faire hospitaliser sa mère de force puis vider son logement.
C'est terrible, cette histoire-là.
Tu l'as vu?
C'est un cauchemar.
Épouvantable.
Les gens.
Ginette Borduas, ça, c'est la maman, OK? Elle a été hospitalisée contre son gré après que sa fille, Caroline, ait eu une ordonnance de la cour pour qu'elle subisse une évaluation psychiatrique. Fait que la fille, elle se présente en cour, elle dit qu'elle est inquiète pour sa mère, devant le tribunal, elle dit que c'est...
Puis ça, ça existe, puis souvent, ça va être légitime.
Oui, oui, oui,
t'as pas
absolument.
Le choix, il y a des tutelles, il y a un tas d'éléments pour prendre soin de quelqu'un qui n'est plus en mesure de prendre soin de sa personne.
Le pourquoi ça a été pris au sérieux d'abord, là. Donc, devant le tribunal, elle dit que c'est une urgence extrême d'agir, elle dit que sa mère représente un danger pour les autres, elle a réussi à faire hospitaliser de force sa mère, même si elle avait tout inventé. Faut-tu que tu l'aïsses, ta mère, pour vrai, là? Donc, on vient en arrière, OK? On est en 2023. Caroline Lefebvre, c'est la fille. Elle veut vendre son immeuble à logement où sa mère est locataire. OK? Les acheteurs potentiels se font rares, ça marche pas. Puis plus le temps avance, plus elle se dit que c'est de la faute de sa mère. Fait qu'elle décide d'élaborer un plan en deux phases pour être capable d'arriver à ses fins. Premièrement, elle décide de se présenter devant le fameux tribunal pour plaider que sa mère souffre de troubles psychiatriques, tellement sévères qu'elle doit être évaluée d'urgence à l'hôpital. Fait que devant un juge de la Cour du Québec, Caroline Lefebvre parle de comportements erratiques, dangereux, paranoïa, idées délirantes, problèmes psychologiques qui durent depuis des années, que ça se détériore au point où sa mère est vraiment devenue un danger pour elle et pour tous, et que c'est tellement critique qu'il faut pas que sa mère soit avisée de la demande d'ordonnance qu'il avise pour lui faire passer une évaluation parce qu'elle pourrait réagir.
Puis là, ils l'ont cru?
Ils l'ont cru.
Parce que moi, j'ai l'impression de revenir à une époque où des familles faisaient interner quelqu'un de...
C'est débile.
De qui ça leur faisait pas l'affaire qu'il soit dans l'entourage, mettons, là.
Donc, Caroline Lefebvre obtient l'ordonnance, le document en main, elle se pointe au poste de police. La mère en question, Ginette Borduas, elle se souvient assez bien de la date précise. On est le 11 septembre 2023. Deux policières qui arrivent chez elle avec l'ordonnance en main obtenue par la fille. Les agentes y permettent de prendre une douche, mais comme l'ordonnance du tribunal laisse croire qu'elle est instable et qu'elle est dangereuse, bien, elle est obligée de laisser la porte ouverte pendant qu'elle se lave pour que les policières puissent la voir en tout temps.
Audrey, j'arrête pas de penser l'histoire des parents que leur enfant allait péter un plomb dans le secteur de Lac Saint-Charles, finalement, il a tué un voisin, puis les policiers ne se déplaçaient pas. Puis là, dans ce cas-ci, ils se sont déplacés pour une histoire
de dame qui aurait eu des problèmes cognitifs. C'est fou, hein?
J'ai honnêtement le même réflexe. Je connais plein de gens qui ont quelqu'un qui ont des graves problèmes de santé mentale dans
risques,
leur entourage et qui n'arrivent pas à rien. Contre, en fait, sans l'accord de la personne elle-même, écoute, c'est extrêmement compliqué. J'écoute ton histoire, je me dis, ben voyons donc.
L'année passée, on avait reçu une auditrice et son papa qui ont un membre de la famille qui est schizophrène, lourdement handicapé
puis
mentalement,
ouais.
Puis médicamenté, fait des menaces à
dangereux,
la famille,
là.
Des menaces à l'enfant de sa sœur qui a 2 ans. C'est l'enfer, pas capable d'avoir de l'aide de la police. Il est itinérant, il n'a pas d'adresse fixe, pas capable d'avoir d'ordonnance, un bordel. Puis pour des histoires comme ça, facile de même. Donc, la pauvre madame, elle sort de la douche, elle est obligée de s'habiller devant les policiers, elle est à moitié tout nue, tu comprends, elle n'a pas le choix, ça fait partie des procédures.
Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'elle n'était pas instable pour 2 semaines?
Bien, pas sur le moment. Ils l'ont amenée à l'hôpital parce qu'ils ont une ordonnance puis il faut qu'ils suivent, ce que la cour dit.
Eux, ils
ne
l'évaluent pas. Là. Ils,
ouais,
ils l'amènent. Font ce qui est écrit.
Exact.
Ils exécutent.
Fait qu'une fois la mère transportée à l'hôpital, Caroline Lefebvre part vers son immeuble et est prête à lancer la deuxième étape de son plan. Fait qu'elle contacte des amis, elle contacte son petit chum et il loue une remorque puis bien, il commence à vider le logement. Le logement de sa mère.
Bon,
fait que la mère est à l'hôpital, elle n'a aucune idée de ce qui se passe, elle est internée, elle ne sait pas pourquoi. Son logement est en train de se faire vider de bord en bord. Pendant que Caroline Lefebvre et son conjoint et ses amis vident le logement, il y a le frère qui arrive sur place. Le frère ne comprend pas ce qui se passe.
Ah, parce qu'il n'est pas au courant
Il n'est pas au courant, lui, de toute la petite histoire. Fait qu'il se rend à l'hôpital, se rend compte que sa mère est là-bas, l'avertit de ce qui se passe chez eux. Et là, Ginette Borduas, la maman réalise qu'il se trame. Fait qu'elle demande une intervention policière. Donc, les autorités se ramassent là-bas. On demande à Caroline Lefebvre de remettre les meubles et les effets personnels dans le logis. Tu comprends?
Ça fait toute une série Netflix.
Hein? Et quand elle obtient son congé de l'hôpital en fin de soirée, Ginette retourne chez elle. Elle se bute à une porte barrée. Ils ont changé les serrures de son logement.
Mais c'est ça. Elle a été évincée.
Oui.
Et c'est un stratagème dont j'ai jamais entendu parler pour évincer quelqu'un de son logement.
Elle est obligée de forcer la porte. Quand elle est rentrée là-dedans, c'était un bordel parce qu'ils n'ont pas replacé l'appartement. Tu comprendras, hein? Ils ont tout mis dans l'entrée comme ça. Puis arrange-toi avec tes troubles. Épouvantable. Vous comprendrez que c'était à l'encours, cette histoire-là. Fait que le 7 février dernier, il y a une juge qui conclut que Caroline Lefebvre a carrément instrumentalisé une procédure judiciaire pour forcer sa mère à subir une évaluation psychiatrique, dans le but d'entrer illégalement, en passant, dans son logement puis de le vider.
Hey, on s'attend-tu que c'est pas quelque chose qui se planifie en 3 secondes?
Hey,
non,
il y a de la préméditation derrière tout ça.
Il pensait. Puis bon, on porte aussi plainte par rapport à tout ce qui est diffamation, parce que la fille a décidé qu'elle se promenait avec des gens autour pour dire que sa mère avait des problèmes psychiatriques, t'sais, pour que l'histoire soit de plus en plus solide. Fait que la Cour supérieure a fini par condamner Caroline Lefebvre à verser un total de 40 000 $ à sa mère, à titre de dommages, intérêts moraux et punitifs, mais ça n'a pas de bon sens, le monde.
Mais
je pourrais pas imaginer dans un univers faire ça, même à quelqu'un que je haïs, mettons, dans ma famille, dans un univers parallèle.
Je t'imagine
là.
Pas non plus
Voyons.
Faire quelque chose de même à une personne que tu haïs. Mais maintenant, réfléchissons 2 instants à la relation entre ces deux personnes-là.
Il
n'y
a plus de relation. Imagine ce qu'il y avait auparavant.
C'est
pauvre
fascinant.
Madame.
Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes-là ou qu'est-ce qui se passe juste dans la tête? Parce que peut-être qu'il n'y a pas deux côtés de la médaille, puis peut-être que vraiment c'est la fille qui est 100% en tort, puis elle a été reconnue qu'elle était dans le tort. Mais tu te dis, voyons donc, tu fais ça à ta mère.
Été.
Mais là, tu sais, cette histoire-là, elle est extravagante. C'est pour ça qu'on en parle. Mais il y a combien d'enfants qui profitent de leurs parents, qui manipulent des parents, qui les.
Des poignées.
C'est absolument. Terrible. Ouais. Puis il se retrouve dans une situation où, ben je vais aider mon enfant, puis c'est correct, je vais être là. Puis il y a des campagnes de publicité ces temps-ci, là, parce que justement, on dit hey, méfiez-vous des inconnus. C'est pas vrai. Des fois, c'est méfiez-vous de votre propre famille.
Méfiez-vous de vos amis puis de votre famille. C'est terrible quand même. Mais comment tu vis avec toi-même quand tu fais des choses comme
oh,
ça?
Je pense que rendu là, tu n'étais même pas conscient.
Pour se rendre au bout, je pense que t'es, ouais, totalement. Non, c'était la pas du gain, puisqu'à la fin de l'article, on raconte que le 40 000 $ aurait pu être plus élevé si la fille avait été dans une meilleure disposition financière. Puis elle a essayé de poursuivre sa mère pour 100 000 $ en lui disant « T'as nuit à la vente de mon immeuble ».
Ah, non, c'est ça, ça va pas bien au deuxième étage.
Là.
Puis, tu sais, je dis, ça m'a fait sourire, ces histoires-là aujourd'hui, on s'entend que ça m'a fait sourire jaune un peu. Dans les prochaines minutes, on parle d'une histoire qui risque de vous faire réagir. Seriez-vous prêt à le faire? 88-971-1021, elle dépense 70 $ par mois en épicerie grâce à cette tendance. On parle ici du dumpster diving. Il y a Mathias qui a parlé avec la dame qui a parti sa page Facebook et qui fait ça depuis quelques mois maintenant. On va pouvoir entendre des extraits puis en jaser ensemble dans les prochaines prochaines minutes. Vous êtes dans Gravel en retour. On est ensemble jusqu'à 18h. Gravel. Encore et toujours quelques problèmes de circulation à cette heure-ci. Si vous êtes sur la route, gênez-vous pas, 88-971-1021. Texto dans le coin de Val-Bélair. À la hauteur de l'avenue industrielle, on nous parlait un peu plus tôt d'un accident où les pompiers, les policiers sont arrivés, lumière déficiente un peu. Ça crée encore quelques ralentissements entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle. Si vous êtes sur la capitale, direction est, hauteur Robert-Bourassa, toujours difficile également. Et l'entrée des ponts, direction sud, à partir d'Henri IV. Le reste, ça roule super bien. C'est quand même assez ciblé. Évidemment, il y a autre chose. Comme je vous dis, vous ne vous gênez pas au 88-971-1021. Peut-être vous dire aussi que présentement, on est à... Je vais faire un petit refresh, on dirait que ça m'épate moins 1. Non, non, on est vraiment à moins 1 à Québec. Ce soir et cette nuit, aux alentours de moins 6, 3 degrés qu'on annonce pour ce qui est de demain avec des possibilités d'averses de neige. Moins 6 jeudi, alternance soleil-nuage. Je vous ai parlé en début d'émission d'une initiative, je veux dire, d'une dame du côté... Il me semble que c'est du côté de Montréal, mais ça se fait partout un peu au Québec. Elle dépense 70 $ par mois en épicerie grâce à une tendance qu'on appelle le glanage en français.
Elle
le dumpster. Ouais. C'est quoi j'ai dit?
Dumpster diving. Tu as dit elle dépense 70 $
en épicerie. Elle dépense 70 $ seulement en épicerie par mois.
OK, elle dépense okay, ouais, seulement exact. Dans le mois.
Au lieu de, mettons, 300 pièces par semaine.
260 $ par semaine.
Ouais, salut, Mathias.
Salut.
Voilà, Mathias qui a fait un petit dossier avec ça un peu plus tôt aujourd'hui pour parler à cette dame-là qui s'appelle Laurence Kidd-Forcier, qui est une mère de deux enfants. Puis elle, en fait, c'est qu'elle a parti d'une page Facebook, Dumpster Diving Family. Elle est rendue à quoi, 18 000 abonnés à peu près?
Un peu plus que 18 000 abonnés, puis ça fait seulement 3 mois qu'elle a parti sa page Facebook, donc ça a vraiment grossi rapidement.
C'est fou parce que ça, c'est pas une tendance qui est nouvelle, pas mais on dirait que ça s'était un peu arrêté, vraisemblablement dans la manière dont les épiceries géraient leurs produits qui étaient sur le point de passer date ou qui étaient un peu plus périssables. Mais là, on le sait, là, on voit la demande dans les tout ce qui est, mettons, la bouchée généreuse et compagnie. Là, tu vois que les gens sont beaucoup plus serrés dans leur budget pour ce qui est de l'épicerie. J'ai l'impression que ça a peut-être propulsé un retour de cette tendance-là.
De là à aller chercher carrément des aliments dans les poubelles,
ouais,
on dirait
que... Oui, mais là, c'est
que...
pas comme s'il allait fouiller dans ton sac mauve, mettons. Là.
On dirait que j'ai quand même un certain recul par rapport à la pratique. Ceci dit, je suis ouverte et je suis curieuse parce que la dernière fois que j'en avais entendu parler, moi, c'était dans le contexte des terres. Du glanage après, mettons, les saisons, là, les fruits moins beaux qui restent, toutes ces affaires-là, il y a des producteurs carrément qui laissaient les gens venir sur leur terre pour ramasser le mauvais ou le moins beau pour se faire des smoothies puis congeler ça, là, parce qu'ils ne vendraient pas de toute manière. Fait que c'était comme une façon de faire un deux pour un, tu sais, un beau ménage puis de sauver des sous pour certaines personnes. Mais dans les poubelles, j'avais jamais vu ça jusqu'à il y a peut-être 2 mois. Un voisin de mon amoureux qui a une tendance à faire ça dans le container.
Dans vos poubelles ou dans...
Oui, dans le container du bloc pour trouver, okay, mettons, des meubles, parce que c'est pas juste au niveau alimentaire. Oui. Puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, OK, ça existe pour vrai. Puis ces gens-là sont pas gênés en passant. Ce que je trouve honnêtement admirable, là, c'est un beau salut de la main. C'est très assumé ce qu'ils font. C'est bien correct. Puis on est rendu là en 2026 avec le portefeuille qui rush pour certaines familles. Là.
Oui, puis... Pour de vrai, moi, je connaissais pas du tout ça. Là. J'ai vu qu'il y avait des articles qui avaient été écrits en 2016, en 2015.
Ouais. Entre autres dans la région de Québec.
Oui, non, puis j'ai comme appris que ça existait avec cet article-là. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux parce que, maudit, depuis hier, ça réagit fort. Puis il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de commentaires plus négatifs.
Oui, j'imagine que les gens qui la suivent, c'est pas pour avoir ces trucs de poubelle. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui vont là pour essayer de mettre le trouble.
J'ai l'impression qu'au contraire, le monde qui la suit, c'est parce qu'il trouve ça intéressant. Mais là, le Journal de Montréal, en faisant un reportage sur ça, ils ont mis la lumière sur sa page Facebook à du monde qui sont pas abonnés, justement. Puis ces personnes-là, eux, c'est un peu de jugement qu'ils ont par rapport à ça. Beaucoup de... Puis ça revenait autant de la gauche que de la droite là, sur Facebook. Là, que Québec solidaire ont fait un post sur ça que pour changer le titre du Journal de Montréal en disant « Cette mère-là le fait par obligation et non par choix ». Puis ça, ça revenait sur plein de pages Facebook, plein de commentaires qui disaient « Voyons donc, on essaye de nous convaincre qu'elle le fait parce qu'elle veut le faire, mais on sait tout qu'elle est obligée de le faire à cause du prix de la nourriture ». Puis justement, j'y ai parlé, puis c'est un des premiers aspects que j'ai traités avec, déterminer est-ce que vous avez entendu ces jugements-là, puis qu'est-ce que vous en pensez? Puis elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle comprend que c'est un sujet tabou. Par contre, elle le fait uniquement par choix.
Au début, je dois t'avouer que moi, quand je faisais ça, là, tu sais, mettons qu'un propriétaire sortait ou un employé, je me sauvais, là. Tu sais, je me sentais comme une voleuse, j'étais comme, ou peur du jugement. Tu sais, je n'avais pas parlé non plus avec ma famille. Parce que oui, c'est un sujet quand même tabou. Et non, je ne le fais pas par obligation. Tu sais, comme je disais, j'ai jamais manqué de rien. C'était juste par curiosité. Puis quand j'ai vu tout ce gaspillage, ben, il y a comme quelque chose qui s'est réveillé en moi. Puis j'étais comme, ben, il faut que j'en fasse partager les autres.
Le Donc, pire, elle fait-tu juste pour elle ou elle partage justement ce qu'elle repêche
ben,
là-dedans?
Sur Facebook, ben, c'est ça qui est intéressant. Quand elle dit partager aux autres, selon moi, c'est en partie sur Facebook à travers sa page. Mais aussi, ce qu'elle fait, c'est parce que c'est pas juste avec la nourriture, c'est toutes sortes de trouvailles. Fait que par exemple, elle me racontait qu'elle a trouvé des divans flambant neufs encore emballés. Dans ses meilleures journées, elle peut récupérer jusqu'à 1 000 $ de choses qui ont été jetées. Donc, elle peut, si jamais...
On gaspille donc bien.
Elle prend ce qu'elle a besoin pour elle, mais par la suite, elle le distribue à ses proches ou encore à des organismes qui en ont besoin.
Ce que je trouve très hot en passant, parce qu'elle fait littéralement une job de plus pour d'autres mondes qu'elle. Fait que j'ai quand même de l'admiration d'un sens pour ça. Puis le pire, c'est que moi, l'aspect container m'écœure un peu, mais je me dis, un coup que tu vois ce qu'il y a dedans, puis si tu vois comment c'est emballé, puis si tu vois que c'est pas si dégueulasse, peut-être que finalement c'est une mine d'or, puis qu'on n'ose juste pas se mettre la face dedans. Tu sais, j'essaie d'être ouverte d'esprit.
Ben, c'est intéressant que tu emmènes ce point-là, parce que ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup sur Internet. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc, je lui ai posé la question, vous, est-ce que vous trouvez ça dégueulasse? J'imagine que non. Puis effectivement, pour elle, pas nécessairement.
Puis c'est pas dégueulasse la plupart du temps. Un dumpster, c'est pas une poubelle de maison domestique, là. Tu sais, il n'y a pas un restant de pizza, de café, puis toutes sortes d'affaires. C'est que les produits étaient sur les tablettes 5 minutes avant. Ils les ont balancés dans le dumpster, mais c'est pas si sale que ça. Moi, j'ai des gants, une pince, puis après, ben, tes tomates ou tes légumes, peu importe, quand ils viennent de l'épicerie, ils ont été manipulés par tellement de personnes aussi qu'on les lave, tu sais. Ben, je fais la même chose avec les produits dumpster.
Elle a un très, très bon point.
C'est sûr que les grosses poubelles qu'on voit derrière les commerces, pas comme la poubelle de votre bloc appartement quand vous étiez à l'université, là. Pas des sacs qui ont ouvert en chemin à travers de la litière puis tout le kit, mais... T'sais, il me semble que c'est pas la première fois que collectivement on a cette conversation-là. Puis il y a quelques années, souvenez-vous, je me souviens pas le média qui avait fait la découverte, mais c'était derrière des boutiques de vêtements. Il avait trouvé des gros sacs de linge, puis la boutique avait mis les ciseaux dedans. Au lieu de donner ces vêtements-là, il avait choisi de les rendre importables, si on veut, là. Puis ils avaient sacré au vidange.
Oh, ça, j'ai
puis
beaucoup
ça
de
avait
jugement.
Amené une grande conversation sur « Hey, comme ça, c'était, on est donc bien de la boîte de perdre autant alors qu'il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir, à se loger, à s'habiller. » Mais on voit que c'est capable de récupérer autant, c'est qu'encore une fois, comme société, on a erré dans notre manière de gérer pour le suivant.
J'ai jamais compris, on dirait, pourquoi on le faisait pas de façon naturelle. Puis je m'explique, sans rien enlever, c'est sûr que ça enlèverait la possibilité.
Tu penses que tu feras pas d'argent avec anyway, là?
Oui, puis je me dis, pourquoi rendu là, on permet pas juste aux organismes de venir chercher ça à la fin de la journée tout court? On parle souvent de la bouchée généreuse qui ramasse des sous pour être capable d'aller chercher chez les grandes surfaces, là, des produits. Pourquoi on fait pas juste donner cette nourriture-là qui pourrait être utilisée dès le lendemain? T'sais, j'ai comme de la misère avec ça.
Oui, c'est beaucoup. Les commerces, surtout en termes de nourriture, ils essayent de se protéger par ça parce que, par exemple, un produit qui est passé date, techniquement, ils ne sont pas censés livrer à personne. Donc, si, par exemple, l'épicerie dirait « je prends mes produits passés date », je les envoie, par exemple, à la boucherie généreuse. Si quelqu'un, puis là, c'est un cas précis, mais les entreprises se protègent. Si quelqu'un s'intoxiquerait avec ce produit-là.
S'intoxiquer, oui. Bien, il y a encore... Je pense que... Oui, mais je pense qu'un ménage qui peut se faire, tu sais, des fruits, des légumes, là, à la limite, sont juste vraiment en lettres, là, puis il n'y a personne qui les a utilisés, bien, c'est parce que t'enlèves la poque puis c'est mangeable pareil, tu sais. C'est déjà ce qu'on offre, des fois, dans certains organismes. Puis le linge, comme Véro dit, je sais que Laurence Kidd-Forcier, avec qui t'as parlé, j'ai vu des images, là, dans l'article, qu'elle va d'un container de Dollarama aussi, puis qu'elle trouve des bols à chiens, puis des sortes des affaires, des cadres, des... Il y a tellement d'affaires que tu pourrais récupérer, j'ai l'impression, puis je trouve comme ça égoïste de notre part.
Bien, en fait, c'est que des fois aussi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le temps de gérer ça avec des organismes. Puis je dis pas ça pour les défendre ou quoi que ce soit, mais d'après moi, ça doit être ça. T'sais, quel organisme va prendre des bols à chiens, par exemple, ou tel élément, on va juste sacrer ça dans les vidanges. Est-ce qu'il pourrait aussi avoir des commerces qui savent que ça va être ramassé? Et qui décident quand même, justement, pour pas être responsable s'il se passe quelque chose, ils ont pris dans les poubelles, mais qui tolèrent, en fait, qu'il y ait des gens qui viennent fouiller dans leurs poubelles Ouais. Peut-être aussi que ça peut exister.
Si je pense même au fast-food, là. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans des chaînes de restauration rapide, là, peu importe laquelle on nomme, elles sont toutes dans le même panier. Là. Tim, McDo, nomme-les toutes. Là. À la fin de la journée, là, et c'est la moitié des affaires qui sont jetées au vidange puis qui sont complètement encore mangeables puis qu'on pourrait donner peut-être même à des gens dans la rue. Ou, je sais pas, dans ma tête, il y a tellement...
Mais il y a les frigos partage aussi maintenant, oui, qu'on voit de plus en plus apparaître. Tellement une bonne idée.
Puis justement, Laurence Kidd Forcier, c'est ça qu'elle disait sur ses réseaux sociaux. Elle met beaucoup, dans le fond, au début, pourquoi elle avait créé ça. C'est qu'elle allait porter la nourriture dans justement des frigos partage. Donc par la suite, elle partageait ça sur Facebook pour dire « Hey, dans tel frigo, il y a des bons aliments, il y a beaucoup de nourriture disponible si jamais vous avez besoin. » Mais c'est intéressant le point que t'emmènes, Audrey, parce que on vivait moins d'insécurité alimentaire avant. En 2022, parce que c'est les statistiques les plus récentes au Québec, c'est 15,7% de la population québécoise qui vivent d'insécurité alimentaire. Puis ça fait 4 ans que c'est en augmentation. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, un gouvernement qui voit que pour des raisons légales ou des raisons de la façon que la chaîne d'approvisionnement est faite, on gaspille autant, bien, il faut se pencher sur la question, est-ce qu'il faut revoir le modèle actuel pour permettre à ces produits-là d'être consommés?
Bien, il y avait la date de fraîcheur qu'on voulait enlever là, pour certains produits. Arrêter de dire le fameux « meilleur avant » puis de juste l'indiquer sur des produits où il y avait véritablement un risque pour la santé. Combien de fois ma pinte de lait ou encore ma pinte de crème puis mon yogourt, ils ont été extensionnés de quasiment un mois dessus? Là.
Ben oui!
J'ai très bien survécu. Hey, là.
Le yogourt, là, allô, c'est des bactéries. Oui. Je veux dire. C'est, tu le brasses, tu le manges, puis t'es reparti à zéro. Là. Mais ça nous écœure. Puis le pire, c'est que là-dessus, je plaide coupable. Parce que moi, il y a un... Écoute, la personne avec qui j'ai été pendant des années en couple avait le réflexe, des fois, d'enlever juste comme la ce qui avait l'air dégueulasse sur un morceau de fromage.
Je lève
ou sur
moi,
le
je
yogourt.
M'excuse, mais un bloc de fromage ou ce qui a un bout qui n'est pas beau parce qu'il a pris plus l'air ou quoi que ce soit, je le coupe puis je mange le reste.
Un bout pas beau ou un bout bleu?
Bleu, là. Hey, Audrey, veux-tu que je te
scandalise? Fromage bleu, c'est très bon.
Je vais te scandaliser. Cette semaine, j'avais un fond de fromage râpé. Puis tu vois, la date de péremption me menait jusqu'au 27 mars. Mais ça donne que quand je l'ai saupoudré, il y avait 4-5 morceaux un peu plus bleus. Je les ai enlevés. J'ai survécu.
T'as survécu.
Mais t'es délicieuse, mon omelette.
Mais je mets quand même un bémol parce que j'avais eu de nombreux reportages là-dessus. Tu sais, on s'est beaucoup interrogé sur les vraies dates de péremption. Mm-hmm. Puis il disait que... Puis moi, je suis comme toi.
Je mangerai pas de la viande verte, là, on s'entend.
Non, puis je te le suggère pas. Des fruits de mer, du poisson pourri. Jamais. C'est pas à recommander. Mais qui disait que même si t'enlèves le petit bout rose ou le petit bout bleu, des fois, la pourriture à l'intérieur que tu vois pas est déjà commencée. Moi, j'ai l'estomac solide.
Oui.
Mais mettons quelqu'un qui a l'estomac un petit peu fragile, tu sais, peut-être aussi.
Mais moi, il y a ça. Il y a peut-être ça. Là. J'ai pas le système digestif.
Ah, t'es précieuse sur ta bouffe aussi.
Le plus
là.
Fort du monde. Là. Et voyons, je mange littéralement de tout.
T'enlèves le gras de ton bacon, Audrey Pinchot.
Ben, ça m'écœure, c'est mou dans la bouche, c'est dégueulasse.
Mais il y a beaucoup de gras sur du bacon.
Hey, elle a commencé à manger des ailes de poulet il y a 3 semaines. Là.
Mais puis encore là,
ça t'écœure.
Moi, tout ce qui est mou dans ma bouche, là. Tout ce qui est croquant.
Ben, fait que dans le fond, ça élimine beaucoup d'aliments.
Ben,
c'est ça que je disais. C'est mou.
Ben non, mais c'est. Non, Matt. Quand c'est de la viande, je mange bien des affaires mollasses, mais qui sont constamment. OK, du sérieux. Il reste des affaires à dire. Oh, non, mais écoute, j'aime la bonne bouffe. Voilà.
Je comprends. je termine parce qu'on en a beaucoup parlé justement de la qualité des aliments. Puis ça, c'est intéressant. Puis Laurence Kidd Forcier, qui est elle qui a parti de la page Facebook Dumpster Diving Family, c'est ça qu'elle me disait. Il y a beaucoup de jugements, mais elle me dit que ça revient chez toutes les personnes qui font cette pratique-là. Elle me dit qu'elle n'a jamais aussi bien mangé que ça de sa vie.
J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Puis parce que c'est des produits de luxe, parce que les produits qui se ramassent au dumpster, c'est des produits que les personnes ne peuvent pas s'offrir. Donc, tu sais, fait que tous ces produits de luxe-là, qui sont souvent encore bons, moi, je les ramasse, puis je me ramasse avec des produits d'une grande qualité, d'une abondance que j'ai jamais eue.
Ouais, c'est qui la folle, dans le fond, t'sais?
Parce que, tu sais, j'imagine qu'effectivement, les produits dont tu parles, tu vas avoir, mettons, va te magasiner des pâtes alimentaires. Tu vas avoir celle en spécial, mais tu as du haut de gamme. Si la date passe dessus, ils n'ont pas le choix de s'en débarrasser, mais si c'est un commerce qui met justement dans le dumpster, elle se retrouve avec tout ça, avec des canages, avec un tas d'affaires, avec des huiles, des vinaigres. C'est sûr que ce qui rentre là, c'est pas l'entrée de gamme.
C'est vrai, c'est les produits que les gens ne sont pas capables nécessairement de se payer en ce moment parce que ça coûte trop cher, l'épicerie.
Et je me rends compte que je suis influençable, j'ai le goût d'aller dans un container.
Écoute, tu vas rester pris dedans, fais attention.
Ça n'a pas de bon sens. Hey, Mathias Turcotte, un gros merci
ça
d'être passé. Tu viens nous voir demain?
Oui, dossier sur l'économie, contexte économique actuel. Est-ce que le pouvoir d'achat est vraiment aussi bas qu'on le prétend? Puis est-ce qu'on va se sortir de cette situation-là qui en stresse plus d'un? Je vous parle de ça demain.
Ton courriel, si les gens veulent te rejoindre.
citoyen@blvd.fm.
Et voilà, Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain à Boulevard 102. On revient dans quelques minutes, bougez pas.
Gravel. Boulevard.
T'as tout compris. On fait les deux.
Ah, ça tombe bien, parce que là, je suis pris dans un banc de neige. Puis je suis un gros fan d'économie.
Ah, y a rien qui arrive pour rien.
Ah, jamais je pensais que prendre le clou allait me faire économiser.
T'as accès au rabais même si tu prends pas le clou, hein?
Ah ben c'est bon à savoir.
Pour vos assurances et pour l'assistance routière, devenez membre CAA Québec.
Plongez dans la jungle avec Papillon en fête chez Jardin Amel. Une serre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche à vivre en famille. Papillon en fête chez Jardin Amel. Ouvert tous les jours de 8h à 17h30.